Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission culturelle, une émission culturelle un peu spéciale aujourd'hui. Comme promis, je vous propose la suite de l'interview de Jiří Hnilica, historien, enseignant à la faculté de pédagogie de l'université Charles et doctorant à la Sorbonne et au CFRES de Prague. Il vient de publier un livre sur l'histoire de l'Institut français de Prague, dont il vous a déjà parlé mardi dans Panorama. On écoute la suite de l'entretien qu'il a accordé à Anne-Claire Veluire.
Le livre se termine sur la date de 1951. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter pourquoi cette date-là ?
Les bornes chronologiques, c'est 1920 jusqu'à 1951. On peut même se poser une question, est-ce qu'il n'y a pas une rupture pendant la Deuxième Guerre mondiale ? Est-ce qu'il n'y a pas une rupture avec Munich tellement répétée ? Est-ce qu'il n'y a pas une rupture en 48 ? On peut même dire qu'il y a une continuité. 38, c'est une rupture politique, mais l'Institut poursuit ses activités et la rentrée 38-39 est aussi bien que les autres rentrées avant. Ça il faut souligner. Après, en 39, avec l'arrivée, déjà en mars, l'occupation nazie, mais en août 39, l'interdiction officielle de toutes les activités françaises menées à l'étranger, en Tchécoslovaquie, dans ce cas particulier. À l'Institut, la bibliothèque et l'enseignement, aussi les cours, continuent. Grâce aux activités des gens comme Madame Zaïtz ou d'autres personnalités très courageuses qui se disent que l'œuvre française, ce n'est plus en œuvre de propagande, ce n'est plus en œuvre de promulgation d'une grande culture française, mais ça reste en œuvre qui est à défendre contre une autre culture, ça veut dire une culture germanique en place, une culture occupante.
C'est un acte de résistance.
Exactement. Cette résistance continue jusqu'à 45. Ce n'est pas anodin que Madame Zaïtz a une légion d'honneur pour ses activités-là. Et ce n'est pas anodin que Madame Zaïtz, après, a expulsé de la Tchécoslovaquie après en 48. Et 48, c'est pas une rupture non plus parce que l'Institut propose et va proposer pour la suite aussi les cours, la bibliothèque sera ouverte. La bibliothèque sera ouverte pour les Tchèques qui n'auront plus de moyens, pour les Tchécoslovaques, pour correctement parler, n'auront plus d'autres moyens d'avoir la littérature étrangère. Donc, ils viendront régulièrement à l'Institut, dans la bibliothèque, etc. Mais 51 représente vraiment une rupture, par contre, parce que c'est la date de la fermeture officielle par les autorités tchécoslovaques.
Et qu'est-ce qu'il est advenu de l'Institut français pendant toute la période communiste ? Alors, il a été fermé, mais les bâtiments, les locaux, comment ça s'est passé ? Puisqu'on sait qu'en 1989, finalement, il a été réouvert par Václav Havel et François Mitterrand. Comment s'est passé un peu cette période ?
Donc, l'Institut devient vraiment un grand lieu de mémoire. Un grand lieu de mémoire de ces relations franco-tchécoslovaques basées pas seulement dans l'entre-deux-guerres, même si c'est ça la période dorée, comme on dit, la période la plus glorieuse, mais qui s'enracine bien logiquement déjà dans le 19e siècle, dans la francophilie d'une nation tchèque qui est en train de se développer, de se créer, en fait. Donc, l'Institut devient un terrain français à Prague communiste. Donc, un terrain diplomatique, à la fois diplomatique, à la fois culturel. Donc, la bibliothèque, et ça c'est très important et très intéressant, la bibliothèque commence à fonctionner un peu avant le printemps de Prague et reste en fonction aussi dans les années 70-80. Donc, la bibliothèque, comme si l'accès à la culture de livres devrait servir aux Tchécoslovaques, aux Tchèques, en tant qu'un lien avec l'Occident. Comme si, de nouveau, l'Institut devrait jouer un rôle de résistance, hein, une résistance culturelle. Mmh. Et c'est ça pourquoi, et je reviens juste rapidement, pourquoi dans le sous-titre, il y a entre la propagande et l'enseignement ou l'éducation. Est-ce qu'un Institut français à l'étranger est d'abord une place une diffusion culturelle ou c'est un lieu d'enseignement. Quelle culture on peut y acquérir? Dans les années 50, on parle d'une culture d'espionnage. Donc, il y a une autre propagande, dans le pays occitan vers les pays communistes. Donc, l'Institut français à Prague, dans la rue Štěpánská, 37, dans l'entre-deux-guerres, 35 après la guerre, comme si déjà les chiffres, les numéros des maisons changeaient, comme si la place, la position de l'Institut changeait en même temps, comme si ces lieux devraient vraiment être un des ancres que Prague disposait pour avoir toujours ses liens avec l'Occident. D'où la légende de l'Institut, d'où aussi la période dorée de l'entre-deux-guerres.
Ce livre, c'est un travail d'historien. Vous avez fait des recherches dans les archives. Je vous demandais dans quel type de sources vous avez utilisé. Est-ce que vous avez trouvé des choses auxquelles vraiment vous vous attendiez pas?
Tout à fait. Il s'agit tout d'abord d'un travail d'historien. Donc, méthodologiquement, on peut même se demander, est-ce qu'aujourd'hui, on peut étudier l'histoire d'une institution en soi? Est-ce que étudier l'institution est assez représentatif pour ces relations culturelles entre qui peuvent être concis, tissées entre les deux pays? Est-ce que c'est une institution qui les représente ou non? Moi, je pense que oui. En fait, si on y introduit les parties chronologiques dans lesquelles on étudie la vision française des causes et la vision tchécoslovaque, donc une sorte de croisement des intérêts politique, diplomatique, et en même temps, on y ajoute quelques chapitres plus culturels. Donc, dans ce livre-là, je parle aussi des Allemands de la Tchécoslovaquie, et des Allemands qui, dans les sources françaises, sont considérés comme des Tchécoslovaques de la langue allemande. Est-ce que ces Allemands-là de Prague sont considérés comme des vrais élèves de l'Institut, ou on coopère avec eux ou non, quelle est leur place dans ce cadre d'échange entre les États? Après, il y a un autre chapitre qui essaie de retracer vraiment la position culturelle, la position de l'Institut dans la politique culturelle, dans la géographie culturelle de Prague. Qui est-ce qui vient à l'Institut? Combien ils sont ces étudiants? Pourquoi ils viennent, quelles sont leurs motivations. Donc, dans cette logique-là, dans cette optique-là, je pense que étudier une institution apporte aussi des explications pour tout ce qui est les relations internationales, les relations culturelles. Donc ça, c'est le premier point de la réponse. Le deuxième point, en fait, c'est que ce travail est essentiellement basé sur les sources françaises. Ces sources-là sont pas à Paris, mais en Nantes, où il y a des archives diplomatiques, un lieu de recherche, on peut dire, attaché au Quai d'Orsay, mais en même temps, pour des chercheurs tchèques ou slovaques, un peu éloignés de Paris. Donc, c'est les archives rapatriées de Prague qui sont accessibles depuis la fin des années 80, début 2002, voilà. Donc, on peut dire que j'étais un des premiers chercheurs tchèques qui s'y est rendu. Même si il y a des chercheurs français comme Stéphane Reznikov ou Anton Mares qui ont déjà travaillé avec ces sources à Prague. Donc, c'est essentiellement basé sur ces sources-là parce que à Nantes, on a vraiment tout ce que l'Institut produit en tant que l'institution, tout ce que l'ambassade a produit en tant que l'institution culturelle, tout ce que la mission militaire française a produit aussi en tant qu'institution culturelle, et tout ce qui est aussi le service des œuvres françaises à l'étranger, donc en une des branches du Quai d'Orsay de l'entre-deux-guerres. Avec les archives de Prague, on dispose des sources au Palais Tchernin, ça veut dire le ministère des Affaires étrangères, après on a le ministère de l'Instruction publique et l'Université Charles de Prague, mais il faut dire que ces sources-là sont très très limité. Donc ça montre de nouveau que l'Institut, c'est d'abord un lieu de la politique étrangère française menée en Tchécoslovaquie.
L'Institut français donc a été fermé pendant presque toute la période communiste en Tchécoslovaquie, réouvert en 1990, donc avec Mitterrand et Havel qui ont inauguré ce nouveau bâtiment, ou cet ancien bâtiment, mais réouvert. Est-ce qu'il est possible de faire un parallèle entre le fonctionnement de l'Institut français depuis le début des années 90 et puis et la façon dont il fonctionnait pendant l'entre-deux-guerres?
Tout a changé. On rentre jamais dans le même courant. Donc la France n'a plus la même image qu'elle avait dans l'entre-deux-guerres. Le terrain a subi beaucoup plus de concurrence. L'Institut doit, je dirais presque quotidiennement, se battre pour se positionner, se conquérir en terrain en République tchèque d'ailleurs, parce que on a la Slovaquie, la République tchèque, ça c'est tout à fait un autre sujet. Donc déjà le cadre géopolitique a complètement été modifié. Mais aussi la politique étrangère menée par la France dans l'Europe centrale a été modifiée. L'Institut n'est plus considéré en tant qu'un centre d'une diffusion, d'une culture qui devrait conquérir quelqu'un, qui devrait conquérir et vaincre notamment son ennemi allemand. Mais un institut, c'est d'abord naturellement un lieu de l'enseignement de la langue et un lieu culturel. Donc le cinéma très actif, on organise des concerts, on organise des expositions. Et tous ces points sont vraiment différents par rapport à la période de l'entre-deux-guerres que retrace ce livre. Parce que dans l'entre-deux-guerres, l'Institut était vraiment conçu en tant qu'un lieu d'enseignement, un lieu semi-universitaire, une université en miniature, on disait, une petite université française en Tchécoslovaquie. Donc, je pense que l'Institut, en fait, suit tous ces changements d'une diplomatie culturelle menée à l'étranger et aussi la position de la France en Europe centrale, à l'exemple de la Tchécoslovaquie ou de la République tchèque.
Une dernière question. Alors, le livre a été écrit en tchèque, mais est-ce que une traduction en français sera prévue, est prévue?
Elle n'est pas prévue pour l'instant, mais je pense qu'une traduction d'un livre pareil en la complétant avec des monographies sur l'Institut de Varsovie et de Beograd, remplissait, on peut dire, une lacune de tout ce qui était la France dans l'entre-deux-guerres en Europe centrale. On dispose de monographies sur l'Institut de Budapest, de l'Institut de Bucarest. On a aussi un livre de début des années 80 sur l'Institut français. Mais tout ça, en fait, c'était, si je peux me permettre en termes, c'était des retrouvailles. C'était des retrouvailles d'une culture à l'autre. C'était la chute du mur. C'était une liaison, une réouverture de quelque chose qui a existé, qui était très féconde. On le savait, on s'en soupçonnait, on savait que, voilà, ça existait. Mais il nous manque, en fait, il nous manquait pour l'instant, même si je suis pas du tout le seul qui pourrait le faire, il nous manquait pour l'instant une vision critique, une vision d'historien de ce sujet, une vision de recul de ce sujet. Donc je pense qu'une traduction possible pour le public français pourrait éclaircir plein de sujets sur cette légende de la francophilie des élites tchécoslovaque ou d'Europe centrale, centre-européenne, si vous voulez, de l'entre-deux-guerres.
C'était donc l'historien tchèque Jiří Hnilica au micro d'Anne-Claire Veluire qui nous présentait l'histoire de l'Institut français de Prague, un institut qui est toujours très actif aujourd'hui, évidemment au niveau culturel.